Chapitre 4e. Chaque jour, son carnet dirigeait Juliette sur un quartier différent de Paris. Ce n'était pas de sa part une rébellion contre l'étroite destinée réservée à chaque jeune fille. Au contraire, elle entendait vérifier tous ces possibles qui déplacent parfois tellement loin les bornes sur les bas-côtés de notre existence. Seul le sens de notre vie nous mène à la mort, toute marche en travers est infinie. C'était cette marche que faisait Juliette en ce moment. Vérificatrice de l'irréel, de l'inimaginable, du non-révolu, Juliette s'étonnait de retrouver les êtres qu'un de ses désirs d'enfant avait attirés un quart d'heure à l'existence, emportés désormais par l'âge, soumis au contrôle des concierges et marqués, pour qu'elle n'eût pas de doute sur leur qualité humaine, d'une dent d'or ou d'un coryza. Quel gaspillage du sort! Pour que Juliette pût épouser, ce qu'il y a de plus simple et de plus facile à concevoir, un jeune rentier intelligent et beau, le sort avait dû créer une trentaine d'hommes, les jeter dans des métiers spécialisés et inventés, car c'est le seul point sur lequel aucun homme ne ressemble à aucun autre, 30 modèles de jarretelles. Certains étaient mal nourris par lui, et Juliette en souffrait. Certains avaient perdu au feu une oreille ou la jambe. On ne saurait imaginer dans quelle large mesure les possibles ont pris part à la dernière guerre. Certains aussi s'apprêtaient peut-être à lui être infidèles, et chez eux, le thé était prêt. Témoin l'archéologue. L'archéologue était Jean d'Audina, avec lequel elle avait déjeuné le jour de Pâques 1910 chez les Servants, à Aigueperse, et que Madame Servant avait guidé après le déjeuner jusqu'en sa propre chambre pour le consulter sur un trésor qui sonnait dans le plancher. Ce trésor était un sou, un simple sou du Chili, mais il leur avait fallu une heure pour l'extraire. Quand il redescendit, d'Audina avait le ventre plein de poussière, comme ceux qui s'unissent à la terre même, mais du fait qu'il avait refusé d'accepter le sou, qu'il avait rougi, l'avait accepté, rendu sonore, certains avaient deviné que ce sou était le prix de Madame Servant. Jamais jolie femme ne parut d'ailleurs plus heureuse de s'être donnée pour un sou. Juliette alors avait 10 ans, et d'Audina ne la reconnut point quand elle pénétra dans son entresol. Il habitait quai Malaquais, au-dessus de 2 antiquaires, et dans aucun humus de capitale et de civilisation archéologue n'aurait pu réussir, fouille plus riche, que Jean d'Audina en creusant simplement un trou dans son parquet. Il prit Juliette pour Mrs. Batts, la veuve assyro-chaldéenne de l'agent consulaire d'Angleterre à Urmia, qui devait lui apporter cet après-midi-là un plat sassanide en or massif. Il réservait toutes ses facultés critiques pour le plat. Il avait déjà des motifs sentimentaux d'attribuer à l'âge de Dardachi et non à l'âge de Sapor, et il ne lui restait plus de perspicacité disponible pour lui permettre de voir que Juliette n'était pas née en Assyrie. Au contraire, Juliette possédant un œil bleu et un œil brun, il eut immédiatement à l'esprit les chats d'Erzeroun qui ont un œil bleu et un œil gris, et il haussa instinctivement la voix, les chats d'Erzeroun étant sourds. Toute une demi-heure, il attendit patiemment que la visiteuse chatte sortît le plat de son manteau, de sa robe, de son chapeau, et sans prononcer une parole pour le réclamer. Car il savait de quelle horde cupide, tout plat d'or sassanide, est escorté jusqu'à notre ère, depuis le siècle où il fut fondu, à travers l'Asie et l'Europe, les descendants des démarcheurs épiant et harcelant à travers révolution et peste les descendants des possesseurs, le petit-fils de celui que Madame Dieu la foi avait chargé de le conquérir à prix d'or, liant partie avec l'arrière-neveu de celui auquel Potemkin avait prescrit de le prendre au prix du sang, les deux clans se composant selon la civilisation et l'époque, ou d'être faible et doux, ou d'être cruel, ou de bandits autochtones, ou d'envahisseurs passagers, ou, après de trop forts massacre de femmes, mais le plat subsistant entre eux, respecté et envié d'eux comme l'étalon de toute richesse et de tout honneur. D'Audina avait placé Juliette le dos à la fenêtre, de sorte qu'elle ne voyait ni le Louvre, ni la Samaritaine, monument qui, pour D'Audina, était chronologiquement presque des jumeaux, mais seulement une vitrine dont le contenu seul devait avertir Mrs. Batts qu'elle n'avait pas à conter d'histoire sur son plat et qu'on saurait ici l'identifier. Car cette vitrine renfermait les reproductions en étain des vases retrouvés dans l'île de l'Hollande, signés de Chérysophos, que le soleil à son déclin illuminait autant que l'étain souffre d'être illuminé et affecté par le couchant. Ainsi Mrs. Batts, sans être froissée, pouvait comprendre que l'on était au courant, qu'est Malaquais, des émigrations suspectes de plats romains vers le pays des Normands ou des Parthes, et que l'on saurait découvrir à la première auscultation de cet or si c'était une vraie assiette de Sapor ou une de ces banales imitations de Philoctète données, comme la moindre lecture d'Hyginet et de Dion le démontre, un réseau typos 2 par Caracalla. Or, Juliette voyait seulement, au fond de la vitrine, le sou du Chili, énigme dont elle seule avait la clé, et elle comprenait, après 13 ans, la vraie histoire du trésor servant. Il était là, ce sou du Chili, parvenu dans Paris, non pas comme le plat sassanide, grâce à une suite de conjonctions entre roi et padishah, de mariage entre vierges persanes et conquérants mongols, mais au contraire à la faveur des plus humbles trafics de la vie, par une suite de vils négoces roulant sur des souliers acirés, des bananes non fraîches, des cornets de tabac apprisés, jusqu'en cette tirelire qu'était la vertu de Madame Servant. Et le soleil dorait toute cette place du ventre de Dodina, couverte jadis de poussière. Car si la visiteuse s'obstinait à ne point sortir le plat sassanide, d'elle venait de s'évader le soleil, arrivé presque à son déclin, qui enveloppa d'un nimbe sa tête, disparue dans son dos, permettant à Dodina de contempler tout ce qu'on peut trouver de perçant et d'antique sur une jeune auvergnate assise de haut soleil. Plat sassanide, sou du Chili, soleil, monnaie d'échange pour 3 ordres de pensée et d'amour, jouèrent ainsi quelques minutes entre eux dans un muet jonglement. Puis Dodina, impatient, se surprit à regarder avec tant d'insistance ce corps auquel un médecin ou sculpteur pouvait faire rendre, mais où? Un écho argentin qu'il rougit et n'osa plus regarder que le visage de Juliette. Tout cet antique respect envers un trésor, cette vénération transmise depuis 20 siècles envers les plus précieux alliages, Juliette la prenait pour la politesse réservée par les Parisiens aux jeunes filles de la province et en jouissait. Le regard de Dodina, d'ailleurs, se dérobait devant le sien, et elle aurait pu le croire faux si elle n'avait su qu'il avait passé 2 années de sa jeunesse, au sortir de l'école d'Athènes, à regarder en face les dieux grecs qui, justement, sont privés de prunelles et de regards. C'est à Dodina que nous devons l'ouvrage où est décrit, dans la sculpture grecque classique, le passage de l'impassibilité des dieux à leur souffrance, avec les dates exactes où un sculpteur s'avisa d'introduire la crainte du chatouillement dans Juno, le doute de soi dans Jupiter, le mal du pays dans Mercure. C'est Dodina qui lâcha, selon l'expression de Wilamowitz, les rats et les souris dans l'Olympe. Dieu sait combien de fois Dodina débarqua en Angleterre, aux époques de Fashoda, pour aller aux British dévisager l'angoisse dans l'Apollon pour Thalès. Combien dévisagé lui-même par les douaniers, inquiet d'une sérénité aussi complète dans les traits d'un de ces voyageurs français tellement prompt aux gestes et aux imprécations. Que de fois il partit pour Rome, après un rêve que lui avait montré, consolé, contempler l'Apollon du musée Baracco, l'Apollon qui pleure, ému lui-même aux larmes de la douleur du dieu. Que de fois il partit pour l'Autriche, la Grèce, l'Espagne, pour chaque musée ou champ de fouille d'où il avait été signalé un chagrin, une inquiétude, fût-elle légère comme la crainte de la pluie ou des guêpes sur un visage olympien, avec sa petite valise de spécialiste du cœur qui le faisait prendre dans l'Orient Express pour le médecin qui allait ausculter Venizelos, Abdoulhamid ou Monsieur Carp, et surnommé par les archéologues ses confrères le pédicure des dieux. De quel élan il s'embarqua pour la Crète quand fut annoncée la découverte d'un Olympe crétois à visage passionné? Quel échec pour la sculpture classique! Quelle honte pour Phidias, pour Praxitèle, s'il était prouvé qu'avant eux tout l'Olympe avait pleuré ou souri et qu'il n'était plus que des faiseurs de masques! Il accourait, dédaignant jusqu'aux formalités nécessaires pour l'obtention d'un demi-tarif Paris-Marseille, ce qui lui valut une série de regrets au retour, se précipitant dans le hangar où les statues étaient couchées, leur visage recouvert d'une bâche destinée à les cacher aux oiseaux et aux rats, comme de vrais cadavres, bâche mortuaire qu'il souleva avec la tendresse d'une femme de mineur après le coup de grisou, apportant à l'Olympe souffrant toute la sympathie d'un noble cœur et de l'école des Chartes. Et quelle désillusion! Car la tête de Jupiter pleurant était toujours celle de quelques centaures tirés par la queue, le rictus de Vénus, c'étaient les flots qu'il avait creusés, gâtant, selon le mot de Garobi, l'œuvre de leur écume. Parfois le nuage d'inquiétude ou de romantisme dénoncé à Dodina par une lettre anonyme sur Hercule ou Neptune, car dans toute l'Europe on connaissait sa manie, subsistait encore à son arrivée, mais c'était un jeu de la lumière, de la poussière, et ses clichés donnaient au développement un visage presque souriant, et tel que les dieux eux-mêmes le doivent aux photographes. Si bien, excédé aussi par la plaisanterie de collègues qui avaient modifié au plâtre les statues de Naples pour le berner, qu'après avoir juré de trouver une souffrance par Dieu, il ne lui restait plus d'indéniablement douloureux que la tête de l'Apollon Portalès et celle de l'Apollon Baraco. L'appréhension des barbares, la préscience du christianisme, la crainte même des archéologues n'avaient amené que ces deux froncements de sourcils, ces deux légères fluxions sur le visage de la Grèce, et, avis tout d'un coup de maxillaires tendus, d'arcades sourcilières creuses, de bouches ouvertes sur des amygdales, d'Odina était passé corps et âme aux Sassanides, dont le visage exprime toujours quelque chose, disait-il, avec le langage hardi, de ceux qui ont supporté 2 ans un salon solennel, car un lion au moins leur mord la fesse. Mais que de souvenirs passionnés lui restaient de sa première vocation. Cette sortie du British Museum, un jour d'hiver qui ne semblait pas différent des autres jours, et où toute la foule, ayant acquis dans la nuit une ne savait quelle divinité, qui était la défaite de Johannesburg, avait un visage impassible et des yeux sans prunelles. Foule divine qu'il n'avait pu retrouver qu'une seule fois en France, voilà 10 ans, un jour de moisson d'été. Ce voyage à Délos, ces espoirs insensés sur la sensualité de Cérès, partagés d'ailleurs par Tiraboche, ce hangar où il était resté tout le jour face à face avec la fille de Cybèle, n'obtenant de ce visage qu'on lui avait annoncé voluptueux que ce que peut donner un cadran solaire, une ombre tournante, l'annonce en somme de notre mort. Et soudain, à la porte même, il avait vu renversée par un tilbury une paysanne qui ressemblait à s'y méprendre à la statue. Elle criait à rendre l'âme. Elle avait été à peine effleurée. Le conducteur et propriétaire du tilbury, monsieur Aérobatios, encore qu'il fût retombé durement sur le coussin de buis, n'avait même pas perdu son gibus. Mais elle poussait des cris, agitant les jambes, comme si, lasse de s'être contenue toute la journée sous les yeux du savant français, elle se donnait enfin à son délire. Ce jour enfin, à la sortie du musée de Copenhague, où ses yeux, qui avaient erré 8 jours sur 1000 yeux de marbre et n'y avaient trouvé en tout qu'un iris, avant qu'il ait eu le temps de changer son regard de savant pour son regard d'homme, dans un visage de jeune fille, rencontrèrent soudain 2 yeux. C'était, en fait, Dieu humain, la paire qui se rapprochait le plus des yeux des statues, incolores, indolores, et il épousa Olga Kierkegaard, élève de Müller III, qui la dirigeait alors sur l'expression des vœux dans l'art populaire chinois, on ne sait dans quel but hypocrite, car il était de notoriété que Granet pâlissait déjà sur cette étude. Il la revit chez Müller. Elle lut pour une fois sur un visage occidental l'expression d'un vœu distingué, l'exauça, mit au monde un petit enfant qui n'ouvrit jamais les yeux et mourut elle aussi. Telle avait été la fortune de Dodina qui, en ce moment, humble, attendait de sa visiteuse l'obole de 3 millions. Juliette sentait confusément qu'il y avait entre eux quelques malentendus. Ce drapeau rouge à scarabée d'or, qu'il s'était procuré à grand-peine auprès de la délégation assyro-chaldéenne et dont il avait pavoisé la pièce en l'honneur de Mrs. Batts. Elle sentait bien qu'il était une allusion, et elle cherchait vainement laquelle dans son passé. Lorsque Dodina s'excusa avec un sourire d'avoir trop aimé Darius, trop peu Nabucodonosor, elle sentit qu'il y avait une raison à cette excuse et ne put le découvrir en elle. Mais bientôt, pas une de ces caresses de langage qui valaient pour une femme d'un autre continent, d'un autre âge, d'un autre climat, qui ne l'atteignit au cœur même, friandise inconnue. Voilà la langue que l'on goûtait chez les archéologues. Voilà la langue qu'ils parlaient, surgissant des tombes comme des ressuscités, un langage chiffré qui leur permettait de saisir l'âme des femmes à travers des courbes épaisses de passé. Quelle est douce la parole qui vous atteint matelassée de siècles. Par quelque délicate attention, cette minute de passé commun qu'ils avaient eue dans la salle à manger de servants, Dodina sans doute s'amusait, privilège de son art, à la muer en long règne d'une camaraderie bordée par l'Euphrate et le Tigre. Elle acceptait le jeu. Il peut à la rigueur se produire que 2 amis adoptent l'assyro-chaldéen pour se parler de leur enfance. Chaque arbre, chaque animal d'un continent n'est en somme que le chiffre de l'arbre et de l'animal des autres. Autant prendre le chiffre le plus beau et le plus vrai, le chiffre biblique. Ce long éloge qu'il fit du palmier qui couvrait la Chaldée du temps d'Hérodote, il pénétrait en elle comme le plus grand hommage rendu jamais aux ormeaux des gueux perses. Ces deux minuscules taureaux ailés, en plâtre d'ailleurs trop frais, reproduction des taureaux du Louvre, qu'il avait postés de chaque côté de la porte, elle se crut obligée de les caresser, et quand il eut pris sa main, blanchie à l'intérieur par les génies, en affirmant qu'après tout il se pourrait fort bien que les Assyriens fussent les créateurs de la voûte, quand il loua les deux revêtements assyriens, l'albâtre et le gypse, quand, avec la certitude qu'elle savait lire, comme toutes les Chaldéennes, dans les étoiles, les astres, il lui parla de son avenir et de sa mort, Juliette se trouva finalement transportée au bord de ce qui lui semblait le désert ou l'océan, ou l'Asie, et qui était simplement l'histoire. Tout ce que Juliette connaissait de l'Antiquité lui semblait soudain revenir, non de sa mémoire, mais de son souvenir. Et quand, s'approchant plus près encore, il lui baisa doucement le poignet, en répétant le mot du professeur Delaborde d'après lequel l'art assyrien n'a ni enfance ni vieillesse, cela, elle le comprit. Elle comprit qu'il la trouvait jolie, douce, périssable. Une larme coula de ses yeux, et il fut bien dommage, se dit Dodina, qu'elle n'eût pas sorti le plat sassanide pour la recevoir. Il la plaignit de son voyage, si long, si rigoureux, car il pensait, à l'anabase, que Mrs. Batts avait commencé, disparant, à la recherche de ses compatriotes, rebroussant sa route avant, devant la première barbe cosaque, à Erzeroum, devant la première sentinelle, à Fès, à Bagdad, devant la première casquette anglaise, car ces soldats appartiennent à trois peuples qui fouillent les femmes et le plat eût été volé ou confisqué. Juliette approuvait de la tête, croyant qu'il faisait allusion à l'obligation pour les gens des Perses d'aller prendre l'express à Clermont-Ferrand, où il y a 2 heures perdues, complètement perdues, à perdre devant Notre-Dame du Port, devant la maison de Pascal, arrêt trop court, même d'une heure, pour voir pétrifier un objet dans la fontaine pétrifiante. Il la félicita de son talent pour la danse, car il avait lu le rapport d'Aga Ischio sur l'arrivée de Mrs. Bates, sur sa course en plein désert quand elle entendit enfin derrière un groupe de palmiers retentir l'instrument spécial aux Assyro-Chaldéens, en l'espèce le clairon, que le sergent Ischio Latos avait rapporté de la Légion étrangère et qui sonnait chaque soir sur le pays du déluge, le couvre-feu. Sur le bal donné le lendemain, au bord même de l'Euphrate, au son des pistons et théorbes, quand Mrs. Batts dansait si mollement, alourdie par le plat, qu'Agapalos la crut enceinte, ainsi que l'étaient presque toutes les femmes échappées aux Turcs, et que le camp la soigna et la respecta comme si elle portait un fils, un de ces petits Assyro-Chaldéens si rares maintenant. Elle se contentait en fait de porter, non point en elle, mais imprimée en creux sur sa peau par le plat, le roi Couchereau, son cheval et un abondant gibier. Il la félicita de la politesse de ses compatriotes, car il pensait à Agamétios qui avait publié « Aimer la France à cause de son parler agréable et de sa personnalité sympathique ». Et Juliette accepta l'éloge, car elle pensait à son compatriote Pierre de Nexon, qui poussa si loin la courtoisie envers Marie de Berry qu'il dut, pour la venger, se consacrer à insulter la mort. C'est seulement quand il lui prit les deux bras et insista pour voir l'empreinte du roi Couchereau qu'elle ne comprit plus, que tout s'expliqua, et Dodina sut alors que cette jeune fille lui rapportait, non un plat, mais un jour de sa jeunesse. Elle lui montra le carnet. Elle lui lut la page du 12 mai 1910. Dodina se rappelait à peine leur rencontre. Ce jour de printemps, dont Juliette avait noté jusqu'à la température, il fallut que son imagination le déterrât d'au-dessous de toutes les époques qu'il avait depuis habitées, de la période crétoise, de la Thalide, de la Sassanide. Dans ce jeu de balançoire autour de la naissance du Christ, sa tête tournait parfois. Cet an, 1910, c'était un âge séparé du sien par un humus de temples et de dieux. 20 nécropoles l'isolaient des gueux perses. Ce beau soleil auvergnat, qui d'après le carnet inondait ce jour-là la Limagne de 31°3, il lui fallut le retrouver au-dessous d'une pile d'autres soleils, soleil de Délos, soleil de Ravenne, soleil de Naples, au-dessous de tout ce service pour savants heureux, et soudain, un peu ému, au-dessous du cubiculum, de la couche, du hamac chaldéen, il retrouva le lit de Madame Servan. Juliette lui nommait et lui décrivait, lentement, les invités de cet après-midi fameux. Elle sentait confusément qu'elle aidait Dodina à débarrasser chaque objet, chaque plat, chaque visage auvergnat de tous ses synonymes et ses rouilles antiques dont chaque année écoulée les avait pour lui recouverts. Fontaine pétrifiante que la science de Dodina. Cette vibration forcenée que l'étude archéologique donne à l'atmosphère du monde entier, elle la calma peu à peu, et soudain, les ailes de l'archéologie s'écartant, Hormuz et Zeus et Sopor s'évanouissant sous la parole de Juliette comme les rêves au cinéma, il aperçut le notaire, le percepteur, le médecin d'Aigueperse assis solidement autour d'une table à rallonge éclatante de linge damassé et immobile. Retirés de ses fouilles, au lieu de perdre leur couleur, ils étincelaient, et Juliette indiqua qu'ils n'étaient même pas morts. Ce jour de Pâques 1910 devint soudain pour Dodina, avec ses bourgeois et ce vin gris dans des bouteilles de Saint-Galmier, la toile de fond de toute antiquité et de toute sagesse. Il se souvint de cette petite fille qu'il avait guidée, Antigone sans nulle patine d'un futur voyant, dans cette ville qu'il ne comprenait pas alors, car il n'avait fait encore aucun relevé de citadelle, aucune reconstruction de cité, sa spécialité maintenant, mais dont soudain, la science vraiment sert à quelque chose, la raison et le plan lui apparurent en traits de feu. Aidé par le nom des convives, par la vision de quelques pierres historiques aperçues ce jour-là, par le souvenir des simples façades, tout ce que son œil avait inconsciemment enregistré lui revint et il se mit à lire maintenant sur Aigueperse comme sur un palimpseste. Aigueperse se reconstituait toute seule dans ses pensées, bientôt sainte de ses murailles. Le Mantegna, que Juliette lui avait montré dans l'église, lui apprenait soudain qu'Aigueperse était une étape sur cette route empruntée par les rois de France à leur retour d'Italie et semée par eux d'innombrables cadeaux qui finalement, eux aussi, arrivaient un jour au Louvre avec un retard de 500 ans. Ces bornes à chaîne à goupilles sur laquelle la petite Juliette s'était balancée, c'était, il n'y avait pas le moindre doute, la goupille était du 15e, les poternes de l'hôtel Marillac. Dodina achevait avec ravissement cette version alors incomprise. Il lui suffit de revoir en imagination l'encorbellement des Dupuis pour repérer l'emplacement de l'hôtel des Bourbons, le heurtoir des Durand pour reconstituer la maison Michel de l'hôpital, et il lui parut soudain indubitable que les arbres de Prémonsieur, ce quinconce supposait un jardinier du XVIe, dépendaient autrement du château des Fias. Aux yeux émerveillés de Juliette, il fit surgir un palais de la perception, un four banal de l'épicerie Potin, une léproserie du garage. Sur le canevas de la cité, tous les âges se mirent soudain à rôtisser. Oui, cette niche à bandes moulées dans sa chambre d'hôtel, elle était un indice d'influence lombarde, il n'y avait pas à en douter. Elle joignait la Limagne à Milan. Oui, le croisillon sud de la chapelle était d'influence bourguignonne et joignait Rion à Charlieu. Oui, de tous les points créateurs de l'Occident, comme au bout des bras d'une machine à écrire, une marque venait imprimer sur Aigueperse le chiffre indélébile d'un siècle. Dodina se rappelait aussi sa promenade avec Juliette dans les saules, l'ascension dans le volcan éteint et, par analogie, appliquant les méthodes de l'archéologie à l'interprétation du paysage, il comprenait pourquoi Aigueperse avait donné naissance à la fois au poète le plus idyllique de France, à Jacques Delisle, et à Pierre Naisson, poète de la mort. Et, son imagination ne se contenant plus, escaladant les buttes autour d'Aigueperse, qu'il avait alors dédaigné de son autocar, il devinait la situation des châteaux disparus, par leur position même, devinait leur âge, par leur âge combiné avec leur nombre total, l'histoire même de l'Auvergne. Il comprit soudain pourquoi Louis XI s'y était réfugié, il comprit la tour noire et blanche de Cusset, et soudain, à cause du château de Virmeux dont les balustres lui rappelaient ceux de Frédéric Borg, il pensa à Olga Kierkegaard, et se mit à sangloter. Mais c'est alors que Mrs. Batts arriva. Cette fois, c'était bien elle. Dès l'antichambre, elle avait aperçu les taureaux ailés et elle entra dignement par cette porte royale. Puis elle salua son drapeau. Puis elle s'assit à côté de Juliette. L'archéologue contemplait les deux femmes, poternes si différentes de l'humanité, châteaux si contraires de l'âme, qu'il renonçait pour ce soir à saisir le plan du cœur indo-européen. Mrs. Batts avait d'immenses prunelles, des narines béantes, des lèvres distendues. La bouche de Juliette était petite, son nez imperceptible. Celle-là avait évidemment pour mission d'accepter par ses sens le plus possible, et celle-ci le minimum. Un seul rayon atteignait juste l'iris de Juliette, le monde visible n'appuyait sur elle que par ce poinçon. Aux prunelles de Mrs. Batts, la moindre lueur se collait pour la journée, au blanc des yeux surtout, et elle l'en secouait vainement. Mrs. Batts avait une allure de serpent court et gros, ses jambes fendues si nécessaire à Juliette pour enjamber, pour nager, pour ruer la nuit contre la cloison. Mrs. Batts n'en avait nul besoin. Mrs. Batts n'avait pas avalé le plat sassanide, comme on était tenté de le croire, à voir sa bouche fendue aux oreilles, mais elle parla de Paris avec des soupirs, des hoquets, comme si Paris eût été depuis son arrivée récente à l'intérieur d'elle-même. Ah, que la tour Eiffel lui faisait mal! Ah, que la maison de l'avenue MacMahon lui pesait! Ah, que la colonne Vendôme lui faisait du bien! Elle parlait des monuments comme nous parlons de cachet d'aspirine, de la cocaïne, de l'opium. Le Louvre magasin faisait frémir ses narines. Le Louvre musée chavirait ses yeux. Elle était là, aspirant et cuvant, pour ce corps qui ne fécondait plus hebdomadairement le défunt agent consulaire, toute la vertu médicinale de Paris. Parfois, c'était bien un serpent, le serpent d'Ève était une femme. Elle repoussait d'une contraction de l'œsophage l'arc de triomphe jusqu'à son cœur, et soudain, tournant la tête vers le fleuve, elle aperçut, déjà dans l'ombre, Notre-Dame, Notre-Dame pour la première fois. Face à elle, elle l'attira de ses yeux luisants, sifflant à peine, préparant sa salive. Mais heureusement, la nuit tombait, et la vaste nef sauvée par les ténèbres recula doucement s'adosser aux belles gares. Le crépuscule gagnait, dans la chambre, les taureaux, les collections, ces êtres de races différentes, et il les submergeait avec une modestie d'éternité. Juliette se sentait légère et surnagée sur des siècles. Un bec de gaz s'alluma sur la berge, atteignant du même éclat un poisson endormi et la tête de Dodina. Juliette voyait cette tête isolée. Il est touchant d'avoir pour la première fois le sentiment de la vie humaine sur la tête coupée d'un archéologue. Elle se leva. Elle sentait qu'il convenait de laisser seule Mrs. Batts et cette tête, que les pattes d'oie couvraient d'ailleurs de caractères chaldéens secrets pour elle, comme on laisse Salomé seule avec celle de Yokanaan. Elle sortit toute blonde de Mrs. Batts comme un éclat d'un diamant noir. Mais, à peine au bas de l'escalier, elle entendit un bruit éclatant. C'était Mrs. Batts qui laissait le plat d'or choir de ses jupes et le quai malaquais résonna du joyeux accouchement.